On avait commencé à expliquer que les trois semaines que nous avons entre 17 Tammuz et le 9 Av, alors ce sont trois semaines qui sont très spéciales. C'est pas un temps à faire passer le plus rapidement possible pour retrouver la joie d'après Tisha B'Av, mais il faut exploiter le temps de façon maximale. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on est en train de bâtir à nouveau le troisième Beth Amikdash pendant ces semaines-là. On a expliqué, on a dans ces trois semaines 22 jours, donc ils nous font 528 heures qui correspondent à la gematria de Maftéach. Maftéach, c'est une clé. En valeur numérique, Maftéach, c'est 528. Parce qu'en effet, on a 528 heures qui sont la clé de la Géoula. La Géoula, que nous attendons tous depuis bien longtemps, eh bien, elle dépend essentiellement de ces trois semaines. Et le Yabet s'écrit que la raison essentielle, pourquoi est-ce que la Géoula se fait tellement attendre, elle tarde tellement, parce qu'on ne l'attend pas suffisamment. Si on l'attendait réellement du fond du cœur, eh bien, elle arriverait tout de suite. Et en fait, cette période-là, c'est une période qui est très propice pour amener la Géoula. Donc, alors les Maasés, on va expliquer que bon, l'essentiel du travail, c'est de réveiller en nous cet espoir pour la Géoula, cette attente réelle et véridique pour la Géoula, cette émouna pour le Mashiach. Ken? Pourquoi elle est propice? Pourquoi? Parce que c'est dans ces trois semaines-là que le temple a été détruit. Le 17 Tammuz, c'est là où les Goïm ont fait la première brèche dans une des murailles. Il y avait trois murailles autour de Jérusalem. Et la première brèche a été faite dans la troisième muraille, le 17 Tammuz. Et bon, ça a duré pas pendant trois semaines, jusqu'à ce que le temple a été détruit. Bon, les Maasés, ça c'était pour le premier temps, c'était le 9 Tammuz. Du 9 Tammuz au 9 Av. Le second temple, n'est-ce pas, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors, on a une règle générale, nous dit le Ramchal, c'est que lorsqu'on est en train de fêter une fête de la Torah, comme Pessah, Shavuot, Sukkot, on n'est pas uniquement en train de commémorer un événement qui s'est passé il y a des millénaires, mais on est en train surtout de revivre encore une fois cet événement. C'est-à-dire que à Pessah, eh bien, on est encore une fois en train de sortir d'Égypte. Non pas, n'est-ce pas, du pays d'Égypte, mais l'Égypte qui est le symbole de tous les instincts, de tous les yetzirim, toutes les perturbations de l'humanité, eh bien, on peut chaque année à Pessah, eh bien, faire sortir ces instincts, ces vices et ces défauts de notre personnalité. Par un Shavuot, on dit « Man Matan Torah Tenu ». Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah. Non pas qu'on a reçu la Torah il y a 3300 et quelques années, évidemment c'est vrai, mais surtout on fait Shavuot parce qu'encore une fois, Shavuot, on reçoit la Torah. C'est le jour qui est le plus propice de l'année pour recevoir à nouveau la Torah. Maintenant qu'on arrive au 9 Av, lorsque le temple a été détruit, eh bien, c'est le jour où on peut construire le Beth Amikdash. Quand c'est écrit que le Mashiach, il naît le 9 Av. Alors c'est écrit que c'est pas uniquement qu'il est né le 9 Av, mais sa Neshama, elle naît dans le monde le 9 Av. C'est-à-dire que on peut, n'est-ce pas, on peut amener, véhiculer sa Neshama, la Neshama messianique, le 9 Av. C'est-à-dire que ça dépend comment est-ce qu'on va passer ces semaines-là, avec quelle tefilote, quelle attente, de quelle façon on va intensifier notre espoir, notre attente de façon véridique et réelle par rapport au Mashiach et la Géoula, c'est comme ça qu'on peut amener la Géoula. Alors on peut le faire, on doit le faire toute l'année. Comme on a dit la dernière fois, c'est pourquoi nos sages ont instauré, on voit dans la tefila, on parle plus d'une centaine de fois par jour de la Géoula du Mashiach Triat Amitim. Dans la tefila, on nous a introduit déjà plus d'une centaine de fois ce sujet-là. Deuxièmement, on voit que dans la Amida, parmi 19 brachot, on a 6 brachot qui parlent de la Géoula. On a, n'est-ce pas, Mechaïa Mitim, Goel Israël, Mekabet, Nitramo Israël, Bonne Yerushalem, Matmer Kerenchoa et Amachazir, Shina Toletzion. Donc on prononce tous les jours 18 brachot par rapport à la Géoula. Donc en fait, n'est-ce pas, toute l'année, on a déjà un travail intensif dans ce domaine-là. Malheureusement, on n'y pense pas beaucoup. Parce qu'on a affaire à 36 choix à droite à gauche, et on pense très peu, n'est-ce pas, à cette Géoula, c'est bien dommage. Alors maintenant, pendant trois semaines, c'est un moment où on peut encore plus, n'est-ce pas, on doit réellement y penser, parce que la Gemara dit aussi, « Kol dor chez l'onivna betamikdash biyamav, keilu nechrav biyamav ». C'est-à-dire qu'une génération dans laquelle le temple n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est-à-dire que chaque année, c'est comme si Khalila, eh bien le temple est encore une fois détruit. Et on peut le reconstruire. Comment le reconstruire? Par notre espoir, notre attente, notre fila, notre emouna pour la Géoula. Et ça, c'est spécifiquement pendant ces trois semaines-là. C'est écrit aussi dans Echa Kol Rod Feha Isigwa Benam Metzarim. C'est-à-dire que tous ceux qui ont poursuivi Am Israël, eh bien, ils ont réussi à l'atteindre. Benam Metzarim, c'est entre les barrières, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui ne sont pas des jours de détresse pour Am Israël. Mais il y a un drush qui dit Kol Rod Feha, ça s'écrit Kol Rodef Ka. Tout celui qui poursuit Hachem pendant cette période-là, Ben Amatsarim, il s'égoie, il peut en effet, il peut se rapprocher, il peut l'atteindre. C'est-à-dire que c'est une période dans laquelle on peut se rapprocher d'Hachem de façon plus facile, plus simple. Pourquoi? Parce que c'est comme si le roi est en exil. On avait dit le Machal, quand tu veux fixer un rendez-vous avec le roi ou l'empereur ou le président, eh bien il faut le faire bien à l'avance, quelques semaines, quelques mois auparavant. Et tu es introduit pour quelques minutes. Alors que si tu le rencontres dans la forêt, en voyage, par hasard, eh bien tu peux lui parler directement, il y a très peu d'hommes autour de lui, c'est plus facile. Par aussi, Shrinta Begaluta. Pendant ces semaines-là, eh bien, c'est comme si la Shrina, la présence divine, elle est en exil. Elle est exilée, elle est en dehors du palais royal. Et donc pour nous, c'est plus facile de nous rapprocher d'Hachem pendant cette période-là. Top. Mais le Maasé, en fait, le problème, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas réellement à s'endeuiller? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à regretter, n'est-ce pas, le temple et vraiment le désirer? Parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on peut regagner grâce au troisième temple. C'est pourquoi c'est vraiment important, impératif de s'intéresser à ce qu'il y avait du temps du Beth Amikdash pour avoir une idée de ce qu'on peut gagner si le Beth Amikdash, eh bien, soit construit. Alors on va donner quelques exemples de Midrashim pour expliquer qu'est-ce qu'il y avait, n'est-ce pas, du temps du Beth Amikdash et aussi bien avant en Israël. Alors tout d'abord, le Midrash raconte que la terre d'Israël, eh bien, c'est une terre d'abondance. Une terre d'abondance. C'est-à-dire qu'il y a une bracha extraordinaire qui est donnée directement du ciel sur Israël par le Beth Amikdash, le Kodesh Kodashim et le Kodesh, et qui est déversée sur la ville de Jérusalem et ensuite sur la terre d'Israël et dans le monde entier. De nos jours, n'est-ce pas, c'est le contraire. Puisqu'on a le temple détruit, eh bien au contraire, la bracha, elle vient tout d'abord, n'est-ce pas, sur les goyim, sur les nations, et ensuite elle vient sur nous, sur Israël. Mais auparavant, il y avait une abondance extraordinaire, fabuleuse, n'est-ce pas, en terre d'Israël. Alors par exemple, le Midrash nous raconte dans Parashat Shelach Lecha, lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs explorer la terre d'Israël. Alors ces 12 hommes, n'est-ce pas, envoyés par Moshe, eh bien ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants en Israël, qui leur faisaient peur. Ils n'ont pas, c'est des géants qui peuvent décrocher le soleil. Alors de quels géants s'agissait-il? Alors tout d'abord, les Bnei Israël eux-mêmes étaient très costauds. Le Midrash nous dit qu'ils ont pris une grappe de raisin, il fallait 8 personnes pour porter la grappe de raisin, tellement elle était lourde, tellement elle était immense. Et cette grappe, d'après le conte du Midrash, on a deux versions, ou alors elle faisait 7000 kilos, ou alors 14000 kilos. Donc entre 7 et 14 tonnes, une seule grappe de raisin. Top. Alors, admettons qu'elle faisait 7 tonnes, bon, c'est déjà beaucoup. Alors, en effet, 8 hommes ont pu porter, eh bien, 7 tonnes de fruits. Donc, ils étaient vraiment très costauds. Et malgré tout, ils ont eu peur des géants qu'il y avait en Israël. Pourquoi? Parce que, en effet, de quel géant s'agit-il? Le Midrash nous dit que la fille d'un des géants, elle a mangé une figue ou une grenade, il y a deux versions là-bas, et puis elle a jeté la peau dans le jardin. Et son père lui a dit, pourquoi est-ce que tu salis le jardin? Mets la peau autre part. Alors bon, cette peau qui était si gigantesque, eh bien, elle paraissait comme une genre d'une grotte, une caverne. Et par hasard, les 12 hommes sont venus juste à ce moment-là, ils ont vu une caverne qui n'était rien d'autre que la peau de cette figue, ils sont rentrés dedans. Et précisément à cet instant, la fille du géant, elle descend dans le jardin pour prendre de nouveau, n'est-ce pas, cette grotte, cette peau de figue, pour la jeter, l'éjecter en dehors du jardin. Et elle l'a soulevée avec les 12 hommes qui étaient dedans pour l'éjecter en dehors du jardin. C'est pourquoi, en effet, ils ont pris peur, parce que la fille d'un géant, eh bien, elle les a éjectés en un tour de main. Ça, c'était la force qu'il y avait en Israël, parce que cette terre-là, eh bien, elle faisait grandir des hommes avec une telle force, une telle envergure, et aussi les fruits étaient énormes. En effet, chaque raisin était gros comme une pastèque. Ça, c'était les fruits d'Eretz Israël. En effet, dit la Gemara, miyom shenechra bet hamikdash nital tam perot. Depuis que le temple a été détruit, eh bien, le goût, n'est-ce pas, des fruits, il a été altéré. Bien qu'on a en France, là, les oranges Jaffa, elles sont bonnes, les avocats aussi d'Israël, ils ont bon goût, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait auparavant. Parce qu'en effet, le goût a disparu depuis que le temple a été détruit. Le monde a été transformé. Non, on ne s'imagine pas, parce qu'on n'a pas connu autre chose. Bah, sachez que le Midrash dit aussi qu'entre les deux temples, il y avait une différence flagrante. Il y avait, n'est-ce pas, lorsque le second temple a été inauguré. Eh bien, tout le monde était content, mais il y avait une partie qui pleurait. C'était qui? Eh bien, ceux qui avaient 80 ans et 90 ans et 100 ans. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'exil entre les deux temples était de 70 années. Donc, ceux qui ont encore assisté au premier temple, lorsqu'ils ont vu le second temple inauguré, ils sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la différence. Il y avait, n'est-ce pas, des miracles grandioses dans le premier temple qu'il n'y avait pas dans le second temple. Et donc, ils étaient désolés, lamentés par le fait que, malgré, bien que le temple a été reconstruit, mais malgré tout, ça n'arrivait pas à la dimension, l'envergure gigantesque du premier temple. Alors, c'est écrit que le troisième temple, il sera plus grand, plus élevé que les deux temples précédents. Par le fait que le temple a été détruit, le monde a été transformé. Pourquoi? Parce que quand le temple était construit, eh bien, la bracha, la bénédiction, elle descendait du ciel directement par le Beth Amikdash. Et donc, elle était en abondance. Une fois qu'il était détruit, eh bien, la bracha, elle venait de façon détournée. Et elle était très restreinte, très rétrécie. David pose la question, dit, est-ce que lorsqu'on parle de la taille et la saveur, n'est-ce pas, des fruits, est-ce que c'était physique, ou alors plutôt, n'est-ce pas, dans le sens abondance spirituelle et morale, etc. Alors, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est que le côté physique, c'est toujours une branche secondaire par rapport, n'est-ce pas, au côté intérieur réel, pnimi de la chose. C'est-à-dire que, comment dire, on dit dans la bracha, c'est que, n'est pas, lorsqu'on mange des fruits d'Israël, ça nous amène de la gdoucha, ça nous sanctifie jusqu'à nos jours. Sachez, n'est pas, jusqu'à nos jours, eh bien, les fruits qui ont poussé en Israël, ça amène, n'est-ce pas, de la sanctification. Et surtout, n'est-ce pas, les sept fruits d'Israël, n'est-ce pas, dans laquelle la terre d'Israël a été louée pour cela, eh bien, ça amène, n'est-ce pas, plus de kdusha. Il y a aussi une Yerushalmi qui dit que ces fruits-là, eh bien, c'est une préparation à l'étude de la Torah. Ça nous prépare, ça nous rend plus aptes, en effet, à étudier et à comprendre la Torah. Et donc, encore plus, lorsque le Beth Amikdash était construit, c'est qu'en effet, on était purifié, sanctifié par n'importe quel aliment qu'on mangeait en Israël. Et en fait, la taille, pas la taille et le goût, la saveur, c'était une branche, en effet, une dérivée qui démontrait, en effet, le côté intérieur gigantesque du fruit. Comme dit le verset dans lequel, Kilo al alechem levado, ichiadam, kial kol motsapiach, hachem ichiadam. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ne vit pas, n'est-ce pas, uniquement sur le pain, c'est-à-dire le côté physique, n'est-ce pas, corporel, matériel du pain, mais surtout sur le côté intérieur, le côté spirituel qui lui donne la survie. Alors en effet, c'est aussi une des raisons pour lesquelles de nos jours, n'est-ce pas, on est tellement dégradé, descendu en Torah et Tefillah et Mitzvot par rapport à nos ancêtres, parce qu'on a perdu aussi tout cela, même dans les aliments, et on a perdu cela. Comme, prenez un machal, de nos jours, n'est-ce pas, il y a tellement de pesticides, insecticides dans les fruits et légumes, et bien qu'en effet, eh bien, nos corps ont été affaiblis par cela. Alors qu'auparavant, lorsque tout était biologique, eh bien, automatiquement, eh bien, les corps étaient plus costauds, plus. Alors, par aussi, n'est-ce pas, Amavdil, c'est que dans le domaine spirituel, c'est que lorsqu'on mangeait, n'est-ce pas, un fruit, lorsque le Beth Amikdash était construit, il y avait une abondance spirituelle qui était véhiculée par ce fruit. Et automatiquement, on grandissait encore plus en Torah, en mitzvah par rapport à cela. Emet. Ken. Pardon ? L'intérêt d'avoir créé des géants. Hachem a créé a priori le monde, n'est-ce pas, et a donné à l'être humain une taille. Certaine taille. La question c'est de savoir, c'est que est-ce que l'être humain, lorsqu'il a été créé à l'origine, est-ce qu'il avait notre taille ou la taille des géants? Peut-être qu'au contraire, Hachem a créé que des géants, parce qu'il voulait que l'homme soit géant. Et nous, n'est-ce pas, on a rapetissé eh bien, la taille de l'être humain par notre conduite. Comme aussi Hachem a créé des hommes qui vivaient 900 et quelques années. Et de nos jours, n'est-ce pas, on vit une centaine d'années. Encore plus, Hachem a créé l'homme avec une vie éternelle. La mortalité, eh bien, elle a été décrochée par l'homme sur terre. Alors que auparavant, la mortalité n'existait pas. Adam Rishon était a priori, n'est-ce pas, éternel. Il l'a amené par la faute. Ensuite aussi, Bnei Israël, lorsqu'ils ont suivi la Torah, ils sont devenus encore une fois éternels. Ils ont ramené la mortalité 40 jours après avec la faute du veau d'or. Mais c'est nous qui avons amené cette mortalité dans le monde. Ken. Alors, la question est comment est-ce que le troisième Betamigdash sera plus grand que le premier et le deuxième alors que nous, en niveau spirituel, on est plus bas qu'eux. Ça rejoint aussi la question, comment est-ce que nous on peut amener la Géoula, le troisième Betamigdash, alors que les grands de la Torah, les Amoraim de la Gemara n'ont pas amené, et Maïmonide, Rashi et le grand Nivina n'ont pas amené, comment est-ce que nous on peut amener la Géoula? Bon, la réponse à cela est assez longue, on va dire quelques points en bref. Voilà, c'est que Hachem veut amener le monde à une certaine finalité, à une Géoula. Mais cependant, il y a une préparation à cela. C'est-à-dire que il y a toute une métamorphose de l'humanité qui se fait. Parce que l'humanité, elle doit passer plusieurs phases, plusieurs étapes. Adam Rishon était un homme gigantesque, moralement, spirituellement et aussi physiquement. Et toutes nos âmes étaient en lui. Parce que des fois on pose la question, lui il a fauté, nous on doit payer, quel rapport? Non, toutes nos âmes étaient en lui. Et toutes les âmes, n'est-ce pas, qui sont dans le monde, eh bien ce sont des âmes qui étaient, n'est-ce pas, dans son corps. Alors certaines âmes étaient au niveau de la tête, au niveau des bras, des pieds, etc. Les âmes de nos jours, eh bien elles proviennent des pieds, des talons de Adam Arishon. Ikveta Demshicha, n'est-ce pas, le talon messianique, Ikveta, parce que nos âmes, elles viennent de la partie des talons de Adam. En fait, on est à un niveau moins grandiose que nos ancêtres, parce qu'ils provenaient, n'est-ce pas, de la tête, du corps d'Adam Rishon, alors que les pieds, c'est la partie plus ou moins la plus basse. D'autre part, comme le corps entier, la posture du corps, elle tient sur les pieds, sur les talons, par aussi toutes les générations précédentes, elles tiennent sur nous. Et en effet, donc en fait, c'est ce qu'Hachem, il veut amener, n'est-ce pas, l'humanité à sa finalité, c'est que toutes les neshamot d'Adam Rishon doivent faire ce tikkun. La faute d'Adam Rishon doit être réparée par les milliards de neshamot qui étaient en lui, qui doivent, n'est-ce pas, chaque neshama faire un certain tikkun, une certaine réparation dans ce monde-là. Et une fois, n'est-ce pas, que tout va être réalisé, chacun à son niveau, que ce soit une grande neshama ou alors une petite neshama, entre guillemets, parce que toute neshama, même petite qu'elle, elle est toujours grandiose. Et au totalité, on va amener, n'est-ce pas, avec la globalité de toutes les neshamot de Adam Rishon, on va amener à la Géoula. Donc en fait, le Gaon Mivina, et Maïmonide, et Rashi, et tous les grands de la Torah, eh bien, par leur mitzvot, leur Torah, leur attente, leur tfilot, ils ont amené le Mashiach. On n'est pas tout seul à l'amener. Parce qu'en effet, tout le service spirituel de tous ces milliards de Bnei Israël, eh bien, tous ensemble, ça amène la Géoula. Et c'est pourquoi en fait, le troisième Beit HaMikdash sera plus grand, parce que lui, il est bâti de quoi? Il est bâti, n'est-ce pas, de ces mitzvot. Et cette Torah, cette filote de tous les grands pendant 2000 années. Pendant 2000 années, eh bien, on est en train de bâtir le troisième temple. Donc il est plus grand. Parce qu'on a réuni ici tous les travaux spirituels de tous les grands de la Torah, de tous les bénis Israël en totalité. Mais bon, c'est une réponse en bref, la réponse est plus longue. Donc, on poursuit. Alors, on disait, n'est-ce pas, que dans le temps de Beit HaMikdash, eh bien, il y avait une abondance spectaculaire. Encore un autre exemple, nous dit le Midrash. Lorsque une fille se mariait à Jérusalem, eh bien, ce n'était pas la peine de se parfumer. Pourquoi? Parce que la ktoret, l'encens que le Kohen Gadol amenait tous les jours, elle avait un parfum qui embaumait toute la ville de Jérusalem, si bien que le parfum de la Kala aurait passé inaperçu. C'est-à-dire que toute la ville était pleine de parfums tous les jours. Et c'est écrit aussi que ce parfum arrivait jusqu'à la ville de Yericho, qui est à 40 km de Jérusalem. Alors, il y a deux versions. Est-ce que, en effet, ça se propageait 40 km à la ronde? Ou alors non, uniquement Jérusalem, uniquement Yericho, puisque c'était la première ville qui a été conquise par Yoshua, elle a eu ce privilège d'être aussi embaumée par l'encens du Kohen Gadol. Encore un autre exemple, dit le Midrash que les Lévim qui chantaient au Beth Mikdash tous les jours, eh bien, leur chant s'entendait dans toute la ville de Jérusalem, aussi jusqu'à Yericho, sans microphone évidemment. C'était un des miracles qu'il y avait à l'époque, c'est que, en effet, eh bien, leur voix était propagée jusqu'à la ville de Yericho et dans tout Jérusalem. Encore beaucoup de miracles sont cités, n'est-ce pas, dans le Mishnah dans Avot, que jamais, n'est-ce pas, jamais, une viande n'a pourri, n'a senti mauvais dans au Beth Amikdash. Et c'est écrit que Shivrei Kelim, lorsqu'un objet se brisait, se cassait d'au Beth Amikdash, eh bien il était englouti, n'est-ce pas, dans la terre, tout de suite directement, pour ne pas laisser des déchets dans le Beth Amikdash. C'est écrit aussi qu'il y avait le climat à Jérusalem était si extraordinaire que les gens venaient guérir dans cette ville. C'est-à-dire du monde entier, on venait non pas à la mer morte ou en Suisse pour aller guérir, mais on venait uniquement à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'était obligatoire d'être en bonne santé lorsqu'on habitait cette ville. Parce que, dit le verset, « Os vechedva mikomo », c'est qu'il y a toujours la joie dans la demeure d'Hachem au ciel. Parce qu'on sait, n'est-ce pas, qu'il y a aussi un palais royal céleste au ciel en face de Jérusalem, en face du Beth Amikdash. Et la joie, elle règne toujours, n'est-ce pas, dans ce palais royal au ciel. Et il faut aussi que cette joie, elle règne sur le palais royal sur terre. Malchuta d'Ar'a, c'est-à-dire qu'il y a un royaume au ciel et un royaume sur terre qui sont en parallèle. Et comme il y a la joie au ciel, il faut qu'il y ait la joie sur terre. Il ne fallait pas qu'une personne ne soit chagrinée, ne soit, n'est-ce pas, un peu en souffrance dans la ville de Jérusalem. On demandait aussi à tout le monde que celui qui devait faire ses comptes de la banque, qu'il sorte de la ville. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il en viendrait à voir qu'il a moins d'argent qu'il n'imaginait et qu'il n'ait pas de souffrance dans la ville de Yerushalayim, parce qu'il fallait, n'est-ce pas, que toujours la joie réside dans la ville de Yerushalayim, Irakodesh, Bamikdash. D'ailleurs, nous dit aussi le Midrash que, en fait, bien que le temple a été détruit, eh bien, on a une aftacha, on a une promesse que jamais le Kotel Amaravi va être détruit. C'est un des témoignages qu'on a depuis plus de 2000 années que nous dit le Midrash que ce mur-là jamais ne sera détruit. C'est un siman, des siman shashrina shorabi Israël. C'est un signe que la présence divine va toujours demeurer au sein d'Israël. Alors, à noter que bien que le temple a été détruit deux fois, mais cependant, on a des faits historiques qui nous montrent que la ville de Jérusalem, elle a été détruite et rasée neuf fois dans l'histoire. Le temple deux fois, mais la ville entière neuf fois. Et malgré tout, ce côté de la Maravi, ce mur de lamentation, a toujours échappé, n'est-ce pas, aux destructions de la ville. C'est encore. Alors tout d'abord, c'est une des preuves aussi de la véracité de la Torah, qu'il y a un Midrash qui a été écrit à 2000 et quelques années, qui s'avère vrai, eh bien c'est aussi un témoignage, n'est-ce pas, d'auparavant, n'importe quel homme n'aurait jamais pu s'engager dans une telle prophétie qui risquait d'être démentie, mais c'est un témoignage qui est divin. C'est Hachem qui l'a garanti et qui s'est avéré vrai. Et deuxièmement, c'est aussi un signe, n'est-ce pas, que Hachem demeure parmi nous, malgré que le temple a été détruit. Du second temple. Ok, second temple. D'accord. Second temple.
Pourquoi il tient?
Attends, pourquoi est-ce qu'il tient? Siman chez Enashrina Zaza Mimakom Ekdash. C'est pour témoigner que, parce que des fois, pas, on peut être désespéré et dire que si Hachem a détruit le temple, donc Hachem nous a quittés. Terminé. Je me dis non. La preuve que je suis avec vous, voilà, n'est-ce pas, vous avez un signe, un témoignage que ce mur-là ne va jamais être détruit. C'est Sima, n'est-ce pas, que Mashrina, elle réside parmi vous toujours. On a donné quelques exemples. C'est bien de consulter les Midrashim, les livres, n'est-ce pas, en français, en ivrite, les Gmorot, qui nous parlent de ce qu'il y avait, n'est-ce pas, du temps du Beth Amikdash. Alors, cette abondance matérielle, encore une fois, c'est qu'un petit aperçu, une petite dérivée, un effet secondaire par rapport à ce qu'il y avait comme élévation morale et spirituelle. Parce qu'en effet, l'essentiel, n'est-ce pas, de l'homme, c'est pas son abondance matérielle, mais surtout sa valeur morale, intellectuelle et spirituelle. Mais cependant, n'est-ce pas, ça nous donne un indice, parce que Hachem a créé aussi cela, ce sont des accessoires pour nous permettre, en effet, d'agir comme il faut, de façon morale et spirituelle. Alors, en fait, si on s'intéresse à cela, on se rend compte de ce qu'on avait, et ce qu'on a perdu, et ce qu'on peut récupérer grâce au Beit HaMikdash, le troisième, qui en effet doit être plus grand que les deux premiers, et bien ça peut nous aider à intensifier, n'est-ce pas, notre désir, notre attente pour, par rapport au Beit HaMikdash, à la Geoula Mashiach. On dit dans Tehilim, Haynu Kecholmim, c'est-à-dire quoi? Quand on parle, n'est-ce pas, de la Geoula du Mashiach, eh bien, c'est comme un rêve, comme un rêve. Alors, d'après la grammaire, on aurait dit, n'est-ce pas, Niyé Kecholmim, on sera comme en train de rêver. Alors, Haynu, c'est un passé, parce qu'en fait, n'est-ce pas, le Pirouche, c'est le contraire. C'est-à-dire que lorsque la Geoula va arriver, eh bien, c'est comme si on s'est réveillé d'un rêve, d'un cauchemar. On dit Haynu Kecholmim. Jusqu'à présent, on était en train de rêver. Parce que la vie, telle qu'on la vit de nos jours, n'est-ce pas, eh bien, on ne possède pas, on n'a pas tous nos capacités, nos facultés morales et spirituelles. C'est comme si on est plus ou moins anesthésié. Comme on a dit, c'est que comme nos neshamot viennent des talons d'Adam Harishon, le talon, eh bien, c'est une des parties du corps qui n'est pas sensible. C'est pourquoi pas de nos jours, on a moins de sensibilité aussi par rapport à la Torah, aux mitzvot, par rapport au monde, etc. La sensibilité a beaucoup descendu parce qu'en effet, nos neshamot proviennent, n'est-ce pas, des talons d'Adam Harishon. Et lorsque la Geoula va arriver, le monde va être transformé. Nos neshamot vont être réveillés. Alors, ce qui peut nous aider, n'est-ce pas, à prendre conscience de ce qu'on a perdu et de ce qu'on peut regagner, eh bien, s'intéresser aux textes qui parlent de cela. Pour avoir plus de détails, de façon plus détaillée, ce qu'on peut bénéficier grâce au Beit HaMikdash. Shniskeh le Geoula bekarov. Amen.